Nous allons donc passer à la dernière partie de ce podcast où l'on va aller un peu hors Asie avec vos conseils et vos attentes. Flavien, que conseilles-tu en ce mois d'avril 2015
En sortie cinéma, pas vraiment grand-chose. Parce que j'ai pas de film en tête, malheureusement.
Mais ça, c'est
Mad Max, c'est tout. C'est vrai que c'est ce film que j'attends le plus, quoi. Mais, ces derniers temps, tout le monde, je crois. Mais voilà, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu en salle Tokyo Fiancé. Je sais pas si ça avait été évoqué.
Ah, bah justement, c'était à l'origine, on aurait dû en parler dans le podcast.
Ouais, oui.
Je crois que t'es le seul à l'avoir vu avec.
Non, moi je voulais le voir, mais je
l'ai pas vu, donc t'es le seul à l'avoir vu.
Donc
tu conseilles plutôt Tokyo Fiancé. Ouais.
C'est pas mal, pour rester dans la veine asiatique et tout, quoi. Mais,
c'est le Mélinotome, quoi.
Oui, voilà.
C'est gentil. Ça veut tout dire, quoi.
C'est un
Guillaume Musso à Mélinoton.
Non, mais franchement, c'est pas mal, mais bon, voilà, c'est
je pense que
super les conseils des Flavien, c'est du bout des lèvres, vraiment.
Tu donnes grave envie d'aller le voir.
Je vais courir.
Là, je sors, je vais partir.
Tu sais donner envie.
Il y a plus de sens, mais c'est pas grave. Les yeux qui brillent quand t'as le temps.
Sidi, as-tu un film que tu conseilles?
Il y a deux films sur lesquels je vais aller vite, mais le premier, c'est Jack de Edouard Berger. C'est un film allemand réalisé par un Suisse. C'est d'inspiration un peu dardénienne, quoi. C'est-à-dire que si on est un peu sensible à des films accompagnant des personnages en train de se démener avec le quotidien, je pense qu'on en aura pour son argent. Enfin, moi, j'ai pas payé pour le voir, mais
c'est voilà. Le menti.
Voilà, écoutez, bon, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, je dirais, un film qui va faire grincer les dents de pas mal, c'est Histoire de Judas, le nouveau film le cinquième long métrage de Rabah Meurzaïmech, qui depuis deux films décide un peu de s'attaquer à autre chose que le contemporain. Et donc c'est sa vision à lui de ce qu'a pu être la relation singulière entre Jésus et Judas avant ce que l'on sait.
C'était quoi son présent film?
C'était Les Chants de Mandrin, sorti il y a 3 ans.
Voilà. Pas de spoiler sur Jésus, s'il te plaît.
Voilà, donc je vous dis pas tout, mais voilà.
Non, je trouve que
ça reste un cinéaste.
Ça a fait agrandir quelques dents, alors que
je vois Judas par Shyamalan.
Parce que, ne serait-ce qu'à travers la manière dont il décide de faire jouer ses acteurs, cette manière un peu naturaliste, mêlée à ce cadre quand même, voilà, quoi, qui est un peu dans l'imaginaire, dans l'inconscient de tout le monde, qu'on s'intéresse ou pas à la religion. Voilà, je trouve qu'il a ce courage de vouloir incarner ces personnages-là avec la diction des personnages du Rabah Meurzaïmech, c'est-à-dire qu'il parle comme dans Dernier Maquis ou Wesh, qu'est-ce qui se passe. On peut avoir des rictus, il y a eu quelques rictus parmi certains de mes amis spectateurs, mais en même temps, je trouve qu'il va jusqu'au bout de son projet et que voir s'incarner vraiment ces figures-là, les voir en chair, les voir en tant que simple mortel, ça produit son effet, quoi. Donc c'est voilà, je trouve que Rabah Meurzaïmech est un cinéaste aujourd'hui qui réussit à creuser un petit peu sa patte dans le cinéma français et qui mérite qu'on en parle à chaque fois.
Et je sais qu'il y a eu la bande annonce de Mission Impossible qui est sortie. Donc est-ce que tu as une attente à part Mission Impossible que tu
as sorti, oui, pas c'est une attente de pour.
Une attente pour l'année qui vient cinématographique.
Pour l'année qui vient en Mission Impossible. Écoute, non, je crois que c'est vraiment Mission Impossible. C'est Mission Impossible ou rien. Non.
Martin, as-tu un conseil?
Madrid, hormis les films justement des quelques rétrospectives dont j'ai évoqué tout à l'heure, rien, quoi, malheureusement.
Donc aller à la Cinémathèque et à la Maison de la Culture du Japon. Exactement. Vous avez largement de quoi faire. On se moque, oui, voilà. Assez pour avant Cannes, c'est vrai qu'on galère un peu pour trouver des titres à vous conseiller, sauf peut-être Justin.
Oui, donc ce serait des recommandations plutôt DVD pour moi. Alors d'abord, on va rester d'abord en Asie avec donc chez The Trop, je crois, il y a des ressorties de plusieurs Pinku Eiga donc chez cet éditeur. Donc pour certains, c'est des rééditions en fait de films sortis il y a quelques années, dont certains qu'on avait eu en salle, et d'où il y a aussi un ou deux inédits. Donc il y a d'abord, je vais en parler deux dans la vague, donc il y aurait La vie secrète de Madame Yoshino, donc de Masaru Konuma, avec Naomi Tani, donc ouais, s'il y a des amateurs de Pink Ring, voilà, je voyais des yeux qui brillent.
Hein. Un podcast de mecs, les gars.
Et déjà pour et puis donc celui-ci et puis la véritable histoire d'Abbé Sada, donc ça serait ces deux films là. Donc d'abord la véritable histoire d'Abbé Sada, c'est en fait le même fait divers au Japon que ce qui avait inspiré l'Empire des Sens à Oshima, alors bien Oshima. Donc mais avec un traitement complètement différent, donc c'est à la fois plus classique mais à la fois aussi singulier, donc c'est-à-dire il n'y a pas le côté frontal de Oshima, voilà, avec de la nudité, de la pornographie, voilà, entre guillemets, avec des scènes de sexe filmées live. Donc c'est du Pink Uiga, voilà, avec le côté suggestif qu'on connaît, avec les scènes de sexe qui arrivent où toutes les vagues, voilà, le quota habituel, sauf que le traitement est complètement différent. Voilà, c'est traité comme une sorte d'addiction, l'amour fou entre les deux personnages, donc avec un côté très clinique, une photo vraiment désaturée, côté blafard, puis un sexe vraiment, on va pas dire triste, mais un peu sordide, quoi, dans le côté qu'on ressent comme une drogue entre les deux amants l'un pour l'autre, jusqu'à un côté maladif qui vient vers le sadomasochisme avec les jeux qui vont aller entre eux jusqu'à l'extrême. Bon, voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire, avec la manière dont ça va se conclure. Donc, sans en dire trop, voilà.
Sans vouloir te couper, tu peux passer dans ton deuxième.
Voilà, ceux qui ont vu l'Empire des Sens, au moins, ont compris. Et donc, l'autre, ce serait La vie secrète de Madame Yoshino. Donc, Masaru Koduma, c'est un réalisateur assez singulier qui arrive à introduire des thèmes féminisme dans le genre, quand même, qui est assez machisme du Pink Uiga, mais avec un traitement assez étrange. Donc, en malmenant la femme qui réussit par les sévices qu'elle subit, qui réussit toujours à se rebeller, à transcender ça. Donc, et souvent Naomi Tami qui subit, donc dans un film qui était sorti, qui ressortira d'ailleurs en mai, qui était sorti il y a quelques années en salle, qui était Fleur Secrète, où il y avait donc le pitch était une femme qui, son mari se trouvait qu'elle n'était pas assez avenante au lit, pas assez intéressée. Voilà, merci. Et donc, il décidait de la faire enlever par un jeune homme qui allait l'adresser pour qu'elle devienne vraiment une meilleure amante. Et donc, il suivait tous les six, qui se faisait attacher, qui se faisait fouetter. Enfin, on avait tous les outrages possibles. Sauf que elle y prenait goût et devenait limite un monstre pour son mari. À dépasser l'attente de son mari et devenir un véritable monstre dans son érotisme donc féroce. Et donc voilà, on retrouve ce genre de pitch dans La vie secrète de Madame Yoshino, où il y a une jeune femme, donc une veuve qui est rangée, qui élève sa fille, qui n'a plus aucune vie sentimentale et qui va se faire violer par un de ses clients, donc qui est un de ses clients par son patron. Et donc à partir de là, ça va être le déclencheur de son éveil sexuel, étrangement, donc qui va devenir là aussi un véritable monstre qui va chercher des amants, qui va devenir une véritable menthe religieuse. Il y a même au niveau de la mise en scène, c'est filmé comme une sorte de créature surnaturelle qui est dépassée par son désir. Et donc il y a un côté très sensuel, très frontal aussi d'un Kodoma, avec une mise en scène très stylisée, très léchée, et puis assez captivant, surtout par la prestation de Naomi Tani, qui est quand même, qui est parmi les actrices de Pink Uiga, qui était une de celles qui prenait le plus de risques, tant au niveau du moralement que physiquement, vu que c'est quand même un personnage qui subit pas mal de choses, et qui arrive à rester, à avoir un côté puissant à l'image, un côté imposant, alors que pourtant c'est un personnage qui subit des maltraitances, qui est plutôt supposé à l'image être victime, et qui au contraire s'impose dans les thèmes du film. Et l'autre conseil, ça serait donc chez Tamasa, il y a donc il ressort pas mal de comédies anglaises ces derniers temps. Donc là, qui ressort trois films. Donc je vais juste parler de deux. Il y a un film qui s'appelle Heavens Above, donc avec Peter Sellers. Donc c'est une sorte d'extravagant Mr. Deeds, mais à l'anglaise, quoi. Donc c'est un pasteur qui se fait nommer dans une ville qui est corrompue, une espèce de ville capitaliste, un village capitaliste. Ou aussi une grande famille riche qui domine, qui fait nommer l'évêque de la région, qui est complètement soumis à cette famille. Et donc, par une erreur administrative, il y a un pasteur qui est joué par Peter Sellers qui se fait nommer dans cette ville. Et donc, au contraire, lui, c'est un aumônier dans une prison qui est totalement altruiste, qui essaie d'instaurer une autre philosophie dans cette ville, Donc c'est complètement altruiste. Et on voit que ce n'est pas un monde capitaliste en devenir où c'est limite une anomalie de se préoccuper de son prochain. Donc il va se mettre en place des sortes de restos du cœur avec des distributions de denrées pour les plus pauvres et autres. Puis ça va complètement dérégler l'économie de la ville qui sera isolée du reste de l'Angleterre et limite ça va se retourner contre lui. Les habitants vont lui en vouloir, il va dérégler l'économie. Et donc ça remet... Ça montre que c'est dans le monde capitaliste, le côté bienveillant, ça devient une sorte d'anomalie. Donc c'est assez audacieux pour un film du milieu des années 50, avant que cette philosophie qui est totale aujourd'hui. Et il y avait un autre film qui s'appelle The Happiest Day of Your Life, donc, qui se passe après-guerre, donc, dans un collège qui est improvisé de Frank Launder. Donc c'est le réalisateur anglais des années 40, qui fait pas mal de films sociaux aussi dans les années 50. Et donc c'est un collège anglais qui se retrouve, ça se passe pendant le Blitz, et donc qui est improvisé avec une mixité entre garçons et filles en fait. Et c'est quelque chose de, voilà, qui n'est pas habituel dans la société anglaise de ce moment-là. Donc c'est tourné en comédie, mais ça raconte pas mal l'opposition entre les anciennes mentalités donc archaïques, vu que les deux opposants en fait, c'est pas les élèves qui vont s'opposer garçons-filles, eux ça leur va plutôt bien... Ça leur va plutôt bien de cette mixité. Donc c'est vu comme des enfants, voilà, qui sont ensemble. Il n'y a pas de différence garçon-fille, mais c'est plutôt au niveau des adultes que ça pose problème. Donc ça montre l'archaïsme avec le personnage du directeur et la directrice des collèges masculins et féminins qui s'opposent, qui n'acceptent pas du tout cette nouvelle mixité, ce monde moderne. Donc voilà, il s'appelle The Happiest Days of Your Life.
Et est-ce que tu as une attente d'un film plus contemporain?
Alors, une attente...
Le prochain Garrel, hein, qui sort bientôt.
Ah bah, sûrement.
Oh mon Dieu. Ouais.
Bah, ouais, voilà. Alors, une attente... je crois qu'il y a la nouvelle bande-annonce du prochain Mad Max qui est tombée cette semaine.
Ah ouais.
Ah bon. Donc, bon, ça, bon, j'ai des petites réserves, parce que chaque fois qu'on le voit, on se dit qu'on a peut-être déjà vu Mad Max 2, ça a l'air d'être la même chose, en plus... avec du budget, c'est en plus impressionnant, mais on a quand même déjà vu Mad Max 2, mais bon, c'est quand même... Puis quelques réserves sur Tom Hardy, mais malgré tout... malgré tout, bon, ça a l'air impressionnant, puis ça peut faire plaisir de voir un nouveau Mad Max en salle, avec George Miller, qui a plutôt inspiré.
Vous avez quoi contre Tom Hardy, quoi?
Bah, il manque le regard fou. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai remis la bande-annonce du 2... Il a l'air tout endormi.
Il est pas mad.
Il a l'air endormi.
Mel Gibson, c'est sad. Il va devenir mad.
Mel Gibson, même dans un moment calme, il y a ce moment de démence qui passe dans le regard.
Fini Mad Men, maintenant c'est Mad Tom.
Bah oui, mais il y a ce moment de folie qui passe, parce qu'il y a aussi son passif familial, une vie un peu compliquée. Il y a tout ça qui se ressent dans le regard. Il y a toujours ce regard fou que là... dans la bande-annonce, Mad Max et Charlize Theron, pour moi, dans la bande-annonce.
Et je pense que c'est ça, parce que... C'est le twist en fait.
Jérémy, quel est ton conseil
Alors moi, comme d'habitude, je vais te conseiller une série télé. C'est en ce moment sur Netflix, il y a des bonnes séries. Et plus particulièrement, il y a Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est la nouvelle série, la nouvelle comédie de Tina Fey, qui avait fait sortir Rock juste avant sur NBC. Et je vous le conseille vraiment parce que c'est une petite comédie, c'est en 13 épisodes de 25 minutes, ça va très très vite. C'est très ça favorise le binge watching cher à Netflix, et donc on s'enchaîne les épisodes très vite et c'est très très drôle. On retrouve la vivacité de Tina Fey dans l'écriture, dans le timing comique qui est parfait. Il y a déjà 15 000 moments cultes déjà qui tournent sur YouTube, etc., des chansons, etc. C'est déjà super culte. Donc ça parle d'une femme qui a été enfermée pendant 15 ans dans un bunker par un prêtre fou qui leur faisait croire qu'il y avait l'apocalypse. Et donc elle ressort 15 ans plus tard, donc c'est devenu une femme, etc.
C'est un peu underground en fait.
C'est ça. Et elle découvre New York.
Donc...
elle découvre New York et son l'opulence new-yorkaise, etc. Et elle découvre la vie, et donc c'est très drôle, et en même temps c'est une jolie série féministe où les femmes sont unbreakable, et ça fait du bien de voir ça, c'est rafraîchissant, et je vous le conseille vraiment.
Et une attente.
Une attente, bah j'attends Mad Max, comme tout le monde. Et j'attends le flic de Beverly Hills 4, parce que ça fait trop longtemps que je l'attends.
Ouais. Par Brett Ratner.
Par Brett Ratner. Ouais, et j'espère que Med Hondo sera toujours là pour faire la VF.
Bah je crois qu'il est parmi nous, non?
Et oui, mec.
Mais t'attends pas Daredevil, non?
Bah Daredevil, oui, Daredevil qui va arriver.
Qui apparemment... qui est arrivé. Enfin, les projets...
Qui a l'air vraiment vraiment très bien. J'ai pas encore binge-watché, mais ça m'a l'air vraiment très très bien. Les critiques en tout cas sont très enthousiastes. Ouais.
Du pilote pour l'instant. Ouais.
Non, des 5 premiers épisodes.
Les 5 premiers épisodes sont critiqués. Bon, on verra ça. On en reparlera au prochain podcast pour le coup de dernier film. Nicolas, quel est ton conseil?
J'ai deux conseils. Donc mon premier conseil, c'est un film qui est déjà sorti, il s'appelle A3 On Y Va de Jérôme Bonnel. Donc j'avais déjà beaucoup aimé Le Temps de l'Aventure avec Gabriel Byrne. Et j'ai trouvé le film tout simplement très attachant parce que c'est pas. Je m'attendais vraiment à une comédie. Hein. Ça parle donc du triolisme, un sujet qui a été maintes et maintes fois abordé au cinéma. Et je m'attendais pas que ce soit aussi léger en fait, vraiment que ce soit aussi drôle, que ce soit aussi léger, qu'il y ait une telle alchimie entre ces trois acteurs que je ne voyais pas vraiment jouer ensemble dans une comédie romantique. Et enfin, d'ailleurs, la troisième, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais...
Sophie Verbeek.
Ouais, c'est ça, je ne l'avais jamais vue, elle est époustouflante dans le film, très jolie surtout. Ouais. Et puis toujours...
C'est très important.
Non, elle est très... elle est impressionnante en tant que telle, comme Anaïs de Moustier, qui elle est impressionnante dans chacun de ses films, quoi. Et puis même... comment il s'appelle
Félix Moati.
Félix Moati, voilà. Bah justement, lui, d'habitude, je trouve que c'est un acteur français comme on en a vu mille, et je trouve que dans le film, il est vraiment intéressant. Il sort un peu de registre habituel de comique de base, quoi. Et là, je trouve qu'il y a vraiment une alchimie qui fonctionne entre les trois acteurs, et c'est ce qui marche. C'est la façon dont les trois acteurs, comment le cinéaste arrive à nous faire admettre que finalement... Il y en a un qui s'en va et tout s'écroule, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un trio dans le plus pur sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui s'installe entre les trois au niveau de l'amour, au niveau de leurs sentiments, de leurs relations, qui est très beau à regarder. Et c'est vraiment un film émouvant, c'est un film léger, c'est pas un film qui va essayer de faire du psychologisme à deux balles à la Ozon, c'est de la psychologie à deux balles à la Ozon.
C'est un peu genre Serenada 3 de Lubitsch.
Ouais, je les ai pas vus, mais peut-être, ouais, sans doute.
je suis d'accord avec tout ce que tu dis. J'aurais juste une petite réserve sur la fin, c'est-à-dire que je trouve qu'il arrive à monter tellement haut par rapport à cette...
Il y a pas mal qui trouve la fin un petit bras, moi je trouve que c'est une fin qui en fait qui remis dans le contexte actuel de notre société, c'est-à-dire qu'il y a encore un manque d'acceptation de ce genre d'événements-là, comme ça, de ce genre de relations par la plupart des gens, en fait.
Donc on ne peut pas aller jusqu'au bout de l'utopie, quoi. C'est-à-dire,
c'est un peu fataliste, fataliste, ouais. Mais bon.
Mais c'est vrai que le film en lui-même est quand même très bien mené et très réjouissant, en fait.
Deuxième conseil, hein.
Le deuxième conseil, c'est un film qui sort là, ces jours prochains, qui s'est fait défoncer à Cannes, qui ne sortira même pas aux États-Unis. On ne sait même pas pourquoi, parce que personne ne l'a vu là-bas. C'est le Ryan Gosling de Lost River, qui est au final un film... moi, je trouve que c'est un très bon film, très bon premier film, qui est certes très, 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 très référencé. On sent qu'il a mis tout son amour du cinéma et tout son amour des cinéastes avec lesquels il a déjà travaillé. Et ça se ressent à plusieurs scènes, et c'est peut-être son défaut. C'est aussi un film qui est un peu qui est toujours en équipe, qui est toujours un peu qui est à la limite parfois, mais c'est un très beau film. Je trouve qu'il déjà il installe lui sa patte de réalisateur. Il y a des scènes déjà qui me marquent. J'ai vu quoi il y a presque un an. Il y a des scènes encore qui me restent en tête, comme la scène de danse de Ben Mendelsohn avec. Je vais pas décrire la scène, mais c'est dans le film il y a une espèce de théâtre où des gens se retrouvent pour regarder des faux meurtres en fait sur scène, des gens qui se tuent pour de faux, un espèce de résurgence des fantômes de l'Amérique avec tout ce qui se passe. Puis ça se passe à Détroit, dans une espèce de vieux Détroit apocalyptique en fait, où il n'y a plus personne et tout le monde a déménagé, et il y a comme ça l'espèce de fantôme de l'Amérique qui ressortent comme ça, et il y a des scènes un peu à la lumière. Il n'y a jamais en fait de fantastique pur, mais toujours des scènes qui évoquent un peu un fantastique comme ça. Et c'est un conte en fait, c'est un vrai conte un peu noir, un peu poétique, un peu tout quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dedans, c'est un premier film, il a voulu mettre beaucoup de choses, mais je trouve que c'est un film très intéressant, et puis les acteurs sont vraiment magnifiques quoi. Enfin, que ce soit Christina Hendricks, le jeune acteur, je sais pas comment il s'appelle, qui joue dans la série Agent of S.H.I.E.L.D.
Fidian,
je sais plus. Wayan, c'est son prénom. Fidian de Kerr, sa sœur, je sais pas.
Hein? Fid, c'est son
nom. Son nom dans la série, ouais. Fid, c'est mon sœur. Et donc, non, c'est vraiment un très beau film. Je le conseille, surtout, allez le voir, parce que c'est un film qui a vraiment eu beaucoup de mauvaises pubs, pour, de façon assez incompréhensible. J'ai encore en tête des retours de Cannes où des gens chiaient sur le film, ou criaient contre le film. Sifflait à tout va. Alors
c'est Cannes en même temps.
Ouais, je sais, c'est Cannes, mais à ce point-là, pour que les Américains ne sortent pas le film, c'est incroyable, quoi. La cabale qu'il y a contre le film.
Apparemment, il a été un peu remonté aussi par rapport à Cannes. Il a eu
du. C'était arrivé déjà avec ce soir.
Enfin, moi, j'ai vu la version de Cannes.
La même, effectivement, la même histoire avec le Richard Kelly.
Mais même la version de Cannes, moi j'ai vu la version de Cannes, elle est très bien. Enfin, elle est bien comme elle est, la version de Cannes. Donc,
Puis franchement, les filles, si vous voulez que le beau Ryan Gosling puisse nourrir son enfant, voilà, je pense qu'il faut être un peu solidaire et aller voir ce film, quoi.
En tout cas, le trailer il est beau. Tu sens qu'il y a une maîtrise formelle quand même.
Ouais.
Après, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Je sais pas, mais en tout cas. Tu sens qu'il a vu Refn au travail. Mmh. Mais ça a l'air un peu esthétisant, mais en tout cas, visuellement, il y a des visions déjà qui marquent, même dans le trailer. Tu sens
non, mais la scène de danse de Ben Mendelsohn,
elle est
hallucinante. Quoi.
Bon, sinon, on sait que tu attends Mad Max. Hein.
En avril, il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a peut-être des films, il y a sans doute pas mal de films que j'irai voir, mais que j'attends au-delà de tout, pas grand-chose. Surtout en mai, en fait, il y a Cannes déjà, et puis.
On en parlera.
Donc il y a Mad Max, et il y a aussi Tom Holland, le nouveau Brad Bird, que j'attends beaucoup.
Et Maggie
quoi? Tom Holland?
Tom Holland. À la poursuite de demain, par
contre. J'ai entendu Tom Holland. D'accord. Au mois de mai, il y a aussi Maggie, le film avec Arnold Schwarzenegger.
Ah oui, ça a l'air d'être un remake du jeu PS3 The Last of Us, mais.
Je connais, je joue pas aux jeux vidéo, mais par contre, voilà, c'est. C'est quand même 15 ans qu'il a pas fait un bon film, Schwarzenegger. Depuis True Lies, la fameuse, c'est le même.
Terminator 3, non, c'était.
Non, c'était mauvais.
La fin des temps, c'était.
La fin des temps.
Le Kim Jong-un n'était pas si honteux que ça.
Ah oui.
Il y avait un petit plaisir.
Il y avait deux trois points sympas, mais
c'est pas tout à fait un bon film non plus.
Non, mais c'est pas non plus.
Marc, est-ce que tu as des conseils, des attentes? Rien du tout. On parlera du Kinky Duke la prochaine fois, donc peut-être que tu attends One on One.
Absolument.
Bon, en fait, il y a...
Flavien.
Il y en a un que j'attends finalement, je ne pensais pas qu'il sortait à la fin de ce mois-ci. C'est un film d'un cinéaste suédois qui s'appelle Roy Andersson.
Ah oui.
Et il s'appelle un pigeon sur une branche.
Perché sur la branche.
Perché sur la branche.
Réfléchissait sur l'existence.
Qui philosophait sur l'existence. Ouais. Et en fait, c'est un cinéaste un petit peu...
Réfléchir.
C'est clair. Je pense qu'on est au deuxième étage.
Ouais, c'est ça. C'est un cinéaste en fait.
Il a fait quoi comme film ou c'est...
Chanson du deuxième étage.
Si tu l'as vu, tu t'en souviendras.
Ils sont très espacés, hein, ces films. Le précédent date de 2008.
Il a fait pas mal de pubs aussi.
Il travaille dans son propre studio. En fait, c'est un cinéaste qui travaille en caméra fixe. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment des purs tableaux à chaque fois. Chaque scène, en fait. Et donc du coup en fait ce qui est super intéressant c'est de savoir comment il va travailler sa mise en scène par rapport à ce dispositif et comment il travaille en fait ses décors et sa profondeur de champ et tout ça donc voilà je sais que c'est quelqu'un que
c'est vendeur
j'essaie de
c'est souvent des scénettes qui se suivent et il y a toujours
un petit
grain de sable qui vient rayer la mécanique et, c'est un humour très particulier. Il est pas mal œuvré dans la publicité. Je crois que certaines sont arrivées en France aussi, mais il faudra vérifier lesquelles. Mais je me souviens, j'ai découvert l'étrange festival, ce cinéaste.
J'ai eu la chance de le voir, et c'est plutôt un film assez réjouissant, dans le genre humour noir, sarcasme, et c'est effectivement très maîtrisé au niveau des plans fixes, de la durée. Donc ouais, c'est un film, c'est un bon retour. Ouais.
Alors je suis assez étonné, parce que je parle en dernier, que ce film n'ait pas encore été cité, mais c'est vrai qu'un des plus grands cinéastes en activité, voire le plus grand pour moi, qui est Michael Mann, a sorti un de ses plus beaux films à cœur il y a quelques semaines. Alors malheureusement, le film n'a pas très bien marché, donc je ne sais même pas s'il est encore possible de
le
voir.
Je l'ai vu hier soir.
Il joue dans... Aujourd'hui, il joue dans trois salles.
Trois salles à Paris.
Dans les Halles. Et c'est vrai que c'est... qu'il n'a pas bien marché aux États-Unis, qu'il n'a pas bien marché en France. En voyant le film, on comprend très bien pourquoi, parce que c'est vraiment un blockbuster qui est filmé de manière très intimiste, quasiment expérimentale, et qui ne répond pas du tout au canon du blockbuster hollywoodien qui est dominé donc, maintenant par Marvel Studios ou par des gros films d'action. Et c'est vraiment un univers qui est dans une singularité, un univers et un cinéaste qui est dans une singularité absolue et qui continue à proposer une proposition de cinéma qui est tout à fait unique. Donc ça ne m'étonne pas que ça ne marche pas, mais en même temps, moi, ça m'étonne que personne ne l'ait conseillé. Donc,
alors, je l'ai pas encore que quelqu'un l'a fait. On savait que tu avais le conseillé, donc
on t'avait laissé le... Moi, j'ai
le solitaire en Blu-ray, sinon.
Oui,
le solitaire en Blu-ray.
Alors moi j'ai aimé, mais par contre c'est vrai que depuis quelques films, depuis en gros Miami Vice, il est un peu dans un
trip. Il en a fait qu'un depuis.
Bah non, le Public
Enemy. Il a fait Public Enemy depuis Miami Vice.
Voilà. Ouais, bah, ça fait trois films, et en fait il est un peu dans un trip, parce qu'avant il arrivait à rendre... Moi j'ai aimé le film, hein, mais avant il arrivait à rendre ça universel. Il avait un côté ouvert, enfin une ouverture qui faisait que... Les films étaient accessibles quand même. Là, ça a l'air de fonctionner un peu en vase clos. Ce qui explique peut-être l'échec, c'est que là, il essaie d'imprimer sa patte d'auteur, mais il manque une certaine ouverture par rapport à d'autres de ses films. Donc là, c'est vraiment... le fan de Michael Mann va jubiler parce qu'il retrouve tout ce qu'il aime, le type de personnage... Le professionnel, par exemple, le hacker, c'est le personnage un peu professionnel, expert dans son domaine.
Qui est déjà dans le solitaire.
Voilà,
oui, c'est un personnage frère du...
Bon, exactement, bah, dans tous ces personnages, voilà, le professionnel qui est focalisé sur son objectif et qui finit par s'humaniser, ce qu'il perd un peu à un moment donné. Donc il y a tout ça. Et ça manque peut-être d'une ouverture, quoi.
Je trouve ça beau, cette radicalisation, finalement. Ouais. Le fait d'aller vers un cinéma qui est peut-être... qui donne pas forcément les clés aux spectateurs, mais après les clés sont là, il suffit de voir ses films, il suffit de s'ouvrir au film, et pour le coup il donne pas au public forcément.
À l'époque il a su équilibrer les deux collatérales, c'est vraiment le point limite où il y a vraiment un pitch minimaliste, il y a le côté la visible, il y a tout ce côté là, mais il arrive à en faire quelque chose qui peut happer, un suspense qui peut happer n'importe quel spectateur. Qui finit par se perdre, alors que j'aime tous les films, hein, mais qui finit par se perdre avec Miami Vice.
Moi je pense que c'est le cas.
Surtout Public Enemies. Surtout Public Enemies.
C'est un film jumeau de Miami Vice, surtout Hacker. C'est-à-dire que ça se répond dans tous les domaines. Les deux films se dialoguent en permanence. Et on retrouve plus exactement, pour faire l'histoire d'amour, forcément, elle lui fait penser.
Encore avec une asiatique d'ailleurs.
Ah, voilà aussi. Ouais. Donc, et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a. Voilà, c'est justement. C'était très ancré dans l'humain. Et il y a une espèce d'évolution comme ça, et je trouve que son hacker, c'est vraiment un film de fantômes, en fait. C'est vraiment des personnages qui ont l'impression qu'ils évoluent, ils sont pas là, ils sont là et pas là, c'est-à-dire qu'ils sont isolés, même ça se voit dans la mise en scène, ils évoluent de façon permanente, dans un autre monde que les autres, que l'humanité normale, quoi. Ça se voit, par exemple, dans la dernière scène, la scène à Hong Kong, là.
Oui, avec la procession.
Voilà, pendant la procession, où tu vois la façon dont ils filment la scène. Tous les spectateurs sont flous et eux ils sont nets, ils sont dans les travelling nets comme ça, ils évoluent comme ça comme des fantômes à travers la foule, et c'est une façon comme ça par la mise en scène de monter, enfin je sais pas, c'est des personnages fantômes un peu, ils s'appellent Ghostman d'ailleurs,
des personnages sur la qui sont en quête de disparition, qui sont en quête de liberté, et qui finalement
c'est les hackers, et puis ils retrouvent justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils essaient de retrouver leur humanité comme ça au fur et à mesure. Et finalement, il s'échappe, quoi. Donc,
ça se ressent un peu avec lui, où on voit, c'est les films de fin de carrière qui sont un peu autistes, où on essaie de faire son truc.
C'est aussi un film de somme. C'est vrai qu'on finalement, il y a une espèce de résumé de tous ces films qu'on trouve dans Hacker, du personnage du solitaire, mais aussi la scène d'ouverture est extrêmement technique. On voit la manière dont on pirate un réseau informatique qui répond à la scène d'ouverture de coffre du solitaire qui dure une dizaine de minutes.
C'est un petit peu ridicule, là, les processeurs.
Ah non, justement, ça
plus ennuyeux que de filmer des gens qui ont tapé sur l'ordinateur.
Mais on ne filme pas
en dessous.
Il suit le circuit informatique.
Non, parce qu'il y a un petit peu.
Moi, je trouve que dans ce film, il est constamment dans l'autocitation et ses personnages, ils existent.
Et c'est justement cette façon de représenter l'intérieur des connexions cybernétiques. Il met ça en parallèle avec le monde moderne d'aujourd'hui, la façon dont les bâtiments, il filme les bâtiments. C'est quasiment les mêmes plans au final, sauf qu'il y en a un, c'est une espèce de truc cybernétique. Et l'autre, c'est les caméras qui se baladent dans la rue.
Il
est très bon. Moi, je le trouve très bon.
Il a
un côté un peu animal, de toute façon, lui, déjà.
Et ça marche très bien. Et au contraire, il arrive à dans 2-3 scènes, il pose ses personnages. Et le personnage donc, de Chris Hemsworth, il y a cette scène où il sort de prison, où il est juste filmé de dos dans un décor qui est pourtant très banal, c'est un aérodrome. Mm-hmm. Voilà, il part en avion et on sent la soif de liberté du personnage juste en 3 plans. Et je crois que Michael Mann, c'est le seul cinéaste qui arrive à faire ça, qui montre en 3 plans un personnage qui ressent une liberté dans un décor tout ce qu'il y a de plus banal. Et ça, il le montre juste en filmant de manière très aérée cette scène. Ça, je trouve que c'est incroyable, cette manière de faire exister des personnages en 3 images et d'arriver à avoir un personnage qui existe, à avoir l'intériorité du personnage.
J'ai trouvé ça poseur, moi.
Bah, c'est Melville, quoi.
Après, je suis un peu d'accord avec Martin sur le côté autocitation. Il y a une scène où vraiment on pense... c'est le moment où il y a un peu la confession entre Chris Hemsworth et la personnage féminine asiatique. Oh ouais. C'est typiquement, il nous refait la même scène du solitaire, quoi, où il raconte son passé en prison.
Exactement,
ouais. Et il y a ce côté-là, c'est un peu gênant. Quoi. Il y a une difficulté à se renouveler.
Bien s'autociter aussi.
Oui, finalement, il arrive un moment où il fait un film, un film somme, dans lequel il y a des clins d'œil à son cinéma.
Oh, c'est un peu...
Mais contrairement à Martin...
Moi, je pense qu'il a du mal à se renouveler. Il n'arrive plus à se renouveler ses formes. C'est-à-dire qu'il est arrivé... Autant dans Collateral, on les verra, et la façon dont il filme Los Angeles, c'est absolument incroyable. Là, c'est le but à Los Angeles. Après, ils partent en Asie, ils sont à Hong Kong, en Chine populaire, et après, je ne sais plus où il se passe. Les villes et les films de la même façon, c'est les mêmes éclairages,
c'est
tout pareil.
Les films aussi. Hein? C'est-à-dire que le monde est complètement uniformisé par rapport au système informatique sur lequel les distances n'existent plus, sur lequel tout est aboli. C'est la première scène du film qui le montre de manière très théorique, sur lequel on comprend rien avec un système informatique qui est piraté. Et ensuite, tout le film va montrer ça de manière très concrète en filmant toutes les villes de la même manière. Donc moi, ça me semble tout à fait cohérent par rapport à...
On peut y voir une cohérence, mais pour moi, ça me gêne. C'est peu. Pour Hong Kong, il n'y a plus du tout... Enfin, j'espère retrouver au moins le Hong Kong qu'on voit chez Johnny To et tout ça. Et rien du tout, quoi. C'est juste l'impression qu'il a tourné ça à Chinatown, quoi.
Mais parce que peut-être que ce que tu dis de Johnny To, c'est pas non plus Hong Kong qui existe vraiment.
Bah, il y va lui-même, enfin il y vit, quoi. Donc voilà, je pense qu'il capte bien la ville, quoi. Enfin voilà, il la connaît, il la respire,
Paris, t'as plusieurs personnes qui peuvent la filmer. Hein,
oui, non, mais je sais bien.
Disparition, même dans des cinéastes hongkongais qui filment Hong Kong d'aujourd'hui. Enfin, la disparition du Hong Kong, le Hong Kong d'aujourd'hui n'est plus le Hong Kong des années 90.
Ah non, bien sûr.
Des années 2000, et cette uniformisation.
Je suis d'accord avec toi que la ville est en train d'évoluer, enfin, évolue constamment, quoi. C'est-à-dire que là, tu l'as voyé dans les films de Wong Kar-wai, tu vois, avec les maisons qui est passé au-dessus, c'est terminé, quoi. L'aéroport maintenant, donc c'est tout à fait différent. Mais justement, Johnny To, depuis quelques années, voilà, tu la voyais évoluer. Et en plus, Hong Kong nocturne, voilà, il a sublimé comme personne ne l'a fait, quoi. J'espérais retrouver au moins certaines petites choses. Et là, c'est juste, c'est les mêmes lumières orange et compagnie, c'est juste totalement personnel. Alors peut-être que c'est voulu de sa part, mais voilà,
t'as pas kiffé, quoi.
Ah non, moi, j'ai pas du tout aimé. J'ai roupillé pour une bonne partie du film, en plus.
Et pour rester dans le manque de renouvellement, c'est ce côté-là, comme dit Martin, où il pourrait filmer n'importe quelle ville avec son style, ça reste assez unique. Pour rester dans ce côté-là, c'est pour comparer avec, par exemple, Martin Scorsese, quand il fait le Loup de Wall Street. Voilà, on voit l'affiliation avec Casino, Les Affranchis, mais malgré tout, c'est loin d'être une copie de ces films-là. Il renouvelle complètement... son imaginaire, alors qu'on voit la filiation dans la narration, et là je le ressens pas du tout, quoi. J'ai aimé, mais
pas qu'il renouvelle son imaginaire.
Voilà, c'est ça. Il y a côté comédie grand guignol que t'as absolument pas dans Casino ou dans Les Affranchis, l'outrance que t'as là, Il y a des dérapages que t'as pas du tout
c'est
dans
Casino.
C'est
vrai, il y a un côté outrancier.
Un côté too much. Et du fait d'avoir en plus changé d'acteur, Jonah Hill, et par exemple, qui amène ce côté comédie US.
Voilà, Christian Ford. Mais je pense pas que l'un empêche l'autre. Enfin, ça peut être intéressant d'avoir un renouvellement d'un univers cinématographique de la part d'un cinéaste à un moment donné qui va passer à autre chose. Et c'est aussi très bien de faire un film qui soit un film somme, qui soit un film qui résume.
Mais là, ça fait plusieurs films quand même où il sort pas de Public Enemy. Moi, j'avais pas aimé. Et mon problème, c'était que il faisait un film d'époque. Et son nouveau dispositif, ses nouveaux de mise en scène, s'adaptait pas du tout au film de gangster. Alors, j'attendais pas un truc classique.
Mais ça crée une proximité un peu.
Ça marchait pas.
Moi, ça fonctionnait pas. Public Enemy, déjà, quand il est récupéré sous un chef opérateur. Qui apparemment ne s'habitue, enfin qui est un très très bon en argentique, mais qui n'arrivait pas du tout à s'adapter au numérique. Et lui, après, plus tard, a dit que les labos avaient complètement foiré son film. Mais c'était ça que c'était complètement foiré. Il y a un plan sur deux qui était flou quand même. Hein.
C'est vrai que
Public Enemy n'est pas.
Ça fonctionne pas.
Et puis Johnny Depp, qu'est-ce qu'il joue mal.
Peut-être que t'as pas aimé au fait la vision de Hong Kong qui était montrée, parce qu'au fait c'est une vision différente de Hong Kong que toi tu t'attendais à voir. Un Hong Kong que t'avais déjà vu dans d'autres films.
Non, mais même, j'ai déjà vu aussi des cinéastes occidentaux filmés à Hong Kong et je le reconnaissais. Et là du tout, c'est-à-dire que vraiment, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas foulés. Quoi. Ils ont gardé tous les mêmes paramètres de la caméra et puis voilà, quoi, c'est les mêmes luminaires, les mêmes trucs.
Quand on est quand même dans un emprisonnement complet dans le film,
c'est pas ouvert sur l'extérieur.
En plus,
ça revient au fait qu'ils évoluent dans un monde, un espèce de monde parallèle.
Même la poursuite en métro, on dirait collatéral aussi. C'est un problème pour moi de repenser à d'autres films.
Ils sont toujours en dehors de la population.
C'est un auteur en même temps.
Mais ouais, moi je trouve ça bien en fait que les gens se situent.
Entre le manque de. Il manque quelque chose quoi.
Après, c'est cohérent dans sa film, c'est totalement cohérent.
Mais est-ce que ça donne un bon
en
film
en fait, quoi. Quand les mecs se citent, on dit qu'ils s'autocitent et que c'est à chier, et quand il faut quelque chose de différent, on dit bah ouais, mais merde, ça n'a rien à voir avec le mec que je connaissais avant. Bah, faut savoir aussi, les gars.
Je pense justement que c'est un bon film, mais pas forcément pour toutes ces raisons qui sont très rationnelles. C'est la raison qui fait que j'ai beaucoup aimé le film, c'est que le film m'a énormément touché. C'est-à-dire qu'on retrouve chez Michael Mann, moi j'avais une larme à l'œil pratiquement pendant tout le film. Sur cette tragédie qu'elle racontait, notamment sur, effectivement, ça rejoint Miami Vice, mais sur le fait qu'il y a une histoire d'amour qui est là, qui a une date de péremption, on sait que ça va pas marcher, on sait qu'il y a un événement tragique qui va faire que les personnages se
séparent. Tragique, c'est limite si on l'étend, là, c'est vraiment.
C'est ça, on sait qu'il y a
justement
le moment avant qu'il arrive,
tu connais la fin de Miami Vice, donc tu passes forcément. Tu connais la fin de l'histoire d'amour de Miami Vice, donc
exactement,
tu penses forcément dans
Ricœur. Tu penses à ça, vu qu'elle est amenée de la même manière. Mais tu vis, il filme cet instant suspendu juste avant, finalement, la chute des personnages. Et il y a cette épée de Damoclès tout le film. Cette tragédie permanente sur cette déchéance qui va arriver. Et le filmer pendant tout un film, arriver à le faire sentir, c'est ça qui m'a énormément touché et que je trouve très fort. Et je trouve que, encore une fois, c'est un des seuls qui arrive à filmer, filmer ça.
Moi, j'ai aimé, mais c'est le côté, je peux comprendre l'échec parce qu'il a du mal à. C'est en vase clos, quoi. C'est vraiment pour l'amateur de Mann. C'est pas peut-être faire celui-là qu'il faudrait commencer, quoi.
Commencer par le dernier,
effectivement, au collatéral qui est très accessible pour le coup, et finir par Miami Vice
par Miami Vice, quoi.
Pas sûr.
Attends, perds la moitié.
C'est un très bon film, mais je n'ai pas commencé.
Il est très bien.
Dans son meilleur, c'est Insider.
Non.
Il faudra qu'on fasse un podcast spécial Michael Mann. On va couper. Moi, c'est Hit.
Hit aussi.
Et je vais terminer par une attente pour rejoindre Jérémy, qui est une attente série, vu que la fin de la dernière saison de Mad Men, qui est aussi une des plus belles séries du monde actuel, on va voir si ça va être la plus grande avec ces 7 derniers épisodes qui restent donc d'ici quelques semaines.
D'ailleurs, dans le dernier positif, il y a un dossier plutôt sympa sur un comparatif entre Mad Men et Douglas Sirk.
C'est intéressant. Wow. Parce que ça fait longtemps qu'ils hésitent à parler de série.
Il y a un très bon article dessus.
Ils en avaient parlé il y a quelques années, ils avaient fait un dossier série, je crois que c'était en 2011.
Ils en parlent dans le dossier 10 la dernière fois, c'était en 2011.
C'est ça, ils n'en ont pas refait depuis.
Alors que pour le coup, les cahiers du cinéma ont fait une couverture sur 24 heures chrono dès 2003. Donc ils étaient un peu plus en avance quand même sur la révolution entre guillemets esthétique des séries qui continuaient.
Mmh. C'est clair.
Il va falloir que je continue Mad Men alors. Je m'étais arrêté.
J'ai vu les trois premières saisons. Mais c'est...
Moi j'ai du mal de
Mad Men. On doit jamais arrêter Mad Men.
Non mais j'ai aimé Mad Men, mais c'est juste que voilà quoi, c'est, les circonstances ont fait que.
Mais il faut s'accrocher. Pour Mad Men, il faut s'accrocher, ça vaut vraiment le coup. Bon, voilà, on se donne rendez-vous dans 3-4 semaines pour parler de l'actualité du
podcast. Il fallait que je la fasse.
Place
voilà.
See you, Space Cowboys.
See you, salut.
See you.
Salut.